Bonne soirée avec Europe 1 et votre grand journal du soir. La suite, Sébastien Guyot avec votre premier invité.
Ce fut un événement quasi planétaire il y a 30 ans, jour pour jour, ici à Paris. Quasiment à cette heure-là, l'Opéra Bastille était inauguré. Avant d'accueillir notre invité, je vous propose une petite archive Europe 1 d'un certain François Baroin.
C'est Ruggero Raimondi qui a ouvert hier soir le spectacle inaugural de l'Opéra Bastille la nuit d'avant le jour. Une première placée sous le signe de l'émotion.
Émotion, ovation aussi, ce 13 juillet 1989 pour François Mitterrand. À ses côtés, George Bush, Margaret Thatcher, Helmut Kohl, une trentaine de chefs d'État au total, 2700 invités et bien sûr... vous, Jack Lang, bonsoir.
Bonsoir.
C'est à vous, en tant que ministre de la Culture, que François Mitterrand avait commandé un opéra moderne et populaire. C'était ça, hein, l'intitulé de la commande. Vous allez me dire, 30 ans après, que le pari est réussi, que le contrat est rempli. Mais honnêtement, entre nous, populaire l'opéra, on se trompe d'adjectif, non? C'est toujours élitiste.
Si vous n'entendez pas populaire, l'idée que la totalité des citoyens de France et de Navarre iraient à l'opéra, en effet, ce n'est pas populaire dans ce sens. D'ailleurs, aucune institution culturelle n'est populaire.
La fête de la musique que vous avez créée.
La fête de la musique, oui, parce que là, c'est autre chose, parce que les citoyens, c'est ce que j'ai voulu d'ailleurs, sont acteurs de l'événement.
Oui, mais l'opéra ne l'est pas aujourd'hui.
Oui, mais il y a eu quand même des progrès gigantesques. À l'époque, lorsque j'ai vraiment voulu, s'il était un projet pour lequel je me suis bagarré contre vents et marées, c'est la construction de l'Opéra Bastille.
Ça a failli jamais voir le jour.
Ah non, ça a failli se casser la figure 10 fois, 20 fois. Et à ce moment-là, je partais de la constatation que le Palais Garnier, magnifique édifice, ne donnait que quelques représentations par an. Pourquoi ? Parce qu'il était obligé d'être en même temps salle de répétition, pour le ballet, pour l'orchestre, pour les spectacles, pour les petits rats de l'opéra. Bref, on étouffait à l'intérieur de Garnier. Et mon raisonnement, qui n'était pas le mien seul, c'était celui de Pierre Boulez et de tous les vrais passionnés d'opéra, était que si on ne construisait pas un nouvel opéra, l'opéra déclinerait.
Et donc là, en effet, il y a plusieurs salles. Il y a une salle, une arrière-salle aussi grande que la première qui permet de faire des répétitions. Donc ça, c'est l'avantage. L'acoustique aussi est exceptionnelle à l'Opéra de Paris. Malgré tout, il y a eu d'énormes critiques. Souvenez-vous de ce que disait un certain Pierre Berger à la tête des opéras de Paris à l'époque.
Ces querelles sont derrière nous. Toute cette bataille épouvantable entre directeur musical, opéra populaire, pas opéra populaire, on voit tout ce qu'on a dit, c'est terminé. L'opéra ne devait pas ouvrir, eh bien il va ouvrir. Je ne devais pas avoir de directeur musical, eh bien j'en ai un. On ne sait pas quand on ouvrirait la saison, eh bien elle s'ouvrira au début de 90. Tout ça c'est clair.
Tout ça c'est clair, disait Pierre Berger. L'architecture notamment de l'Opéra Bastille, conçue par le Canado-Uruguayen Carlos Haute, est toujours aussi décriée. Qu'est-ce que vous en pensez honnêtement de cette façade?
D'abord, je n'ai pas complètement répondu à votre première question. C'est qu'on est passé de 100 000 spectateurs à près d'un million. Le public s'est considérablement rajeuni. Il faut y aller. Hier soir encore, c'était assez éblouissant de constater que tous les âges se mélangeaient. Par ailleurs, il y a eu toute une série d'actions vers les quartiers populaires, en particulier les opérations collège au cinéma, qui associe des jeunes de différents quartiers. Il y a eu l'effet Bastille sur les opéras de province qui, aujourd'hui, sont en pleine efflorescence. Donc, je dirais, l'opéra conquiert progressivement de nouveaux publics.
Alors, il y a eu les places à 10 euros aussi, mais aujourd'hui, il y en a très peu. C'est même 5 euros si on veut aller voir un opéra, mais on est debout, donc on voit pratiquement pas grand-chose, on s'appuie sur une barre molletonnée, c'est pas l'idéal non plus.
Non, écoutez, non, c'est pas, c'est, non, il y a beaucoup de places, je n'ai pas en mémoire les chiffres, mais il y a vraiment un grand nombre de places à 20 euros. Par ailleurs, le prix des places est l'un des plus bas de tous les opéras du monde. Beaucoup plus bas qu'à la Scala de Milan, beaucoup plus bas qu'à l'Opéra de New York. Il y a des progrès à faire. La vérité, c'est que le financement public a diminué. Relativement. Et il a fallu faire appel à des mécènes privés. Alors, à un moment, la question est qui paye ?
Alors, vous ne m'avez pas répondu, en revanche, sur la façade. Vous en pensez quoi, vous, de cette façade ?
Non, cette façade, bon, elle est ce qu'elle est. Bon, elle s'est... progressivement, elle a été réadaptée. Elle a été adoptée, je dirais même. Et puis, ce qui est très important, c'est l'instrument de travail. Il est unique au monde, vous l'avez vous-même dit à l'instant. 4 plateaux, à l'identique du plateau, où vous pouvez monter à l'avance les chorégraphes, les,
Les décors.
Les décors, bon, les salles de répétition. Il n'y en avait pas à Garnier. Donc, c'est unique au monde, un opéra dans lequel vous avez ces conditions de travail. L'acoustique, vous l'avez évoqué vous-même, est excellente à tel point que tous les chanteurs du monde veulent venir à l'opéra. L'orchestre de l'Opéra de Paris est le meilleur orchestre aujourd'hui du monde pour un opéra.
Donc 2019, vous êtes satisfait de ce qui est devenu votre bébé, comme il a grandi aujourd'hui à 30 ans ?
Oui, parce que, pas grâce à moi seulement, grâce à tous ceux qui ont apporté une contribution. Pierre Berger, qu'on évoque à l'instant, qui est un grand ami qui nous a quittés. Il y a eu des crises. Pas seulement pour la construction ou le choix de l'architecte, mais aussi pour le choix de la direction artistique. Ça a été...
Ah, c'était compliqué, c'est moins
compliqué. Ça a été là l'opéra bouffe.
Voilà, sans parler des grèves des techniciens lors des deux premières saisons, les différents financiers, les différents artistiques. Vous vous souvenez forcément de cette sortie de Françoise de Panafieux qui vous avait dit, alors qu'il n'y avait plus d'orchestre, votre opéra, c'est le Titanic, l'orchestre en moins.
Absolument, d'ailleurs elle avait raison. C'était en 1988-89, dans cette phase de transition, avant la mise à feu. Et en effet, il y avait des crises dans pour le fonctionnement, qui ont été, comme l'a rappelé tout à l'heure Pierre Berger, réglés par la nomination de ce grand chef coréen. Et j'avais envie d'ailleurs d'écrire un livre qui se serait appelé « La revanche du Titanic
». La revanche du Titanic, mais il faut le faire.
Je vais le faire peut-être, grâce à vous.
Bon, l'avenir de l'Opéra Bastille, c'est également cette salle modulable qui va voir le jour, je crois qu'il était d'ailleurs dans le projet initial. Hein.
Absolument, et c'est sur le qualificatif que vous rappeliez, c'était le qualificatif moderne, c'est-à-dire la possibilité de réaliser des expérimentations très nouvelles. Et je suis très heureux que l'État ait décidé de construire enfin cette salle modulable. Alors vous me direz pourquoi je ne l'ai pas construite moi-même, alors que je l'avais prévu, mais parce que pour des raisons de tactique ou de stratégie.
C'est-à-dire
Nous étions en 83-84. Je savais qu'il y aurait alternance en 86. Mmh. Et je voulais créer l'irréversible. Je savais que l'opposition était hostile à l'opéra. Donc j'ai centré tous nos moyens, tous nos efforts vers la construction de la grande salle.
D'accord.
Et donc quand M. Chirac est devenu Premier ministre, il a tenté de raser tout ça. C'était un immense gâchis. Il faut rendre hommage à M. Léotard, qui, convaincu par François Mitterrand, a décidé courageusement de maintenir le projet.
Conclusion, Jack Lang, 30 ans après, l'Opéra de Paris, Bastille, devait être moderne et populaire. Vous qui avez le sens de la formule, aujourd'hui, c'est quoi ?
C'est un opéra qui est devenu, aujourd'hui, Paris est redevenu la capitale mondiale de l'art lyrique et de l'art chorégraphique. On n'a pas parlé du ballet, qui a été complètement transformé. On a construit une école à Nanterre avec Christian de Bordenpart pour les élèves de l'opéra. La chorégraphie s'est prodigieusement transformée. La présence de chorégraphes, et je dois dire que Loureyev, que nous avions nommé non sans polémique à la tête de l'opéra, a été un fabuleux transformateur. Voilà, je ne dis pas que tout est parfait. Il y a des choses à améliorer, et direction à prendre. Mais n'oubliez pas que ce qui est entrepris aujourd'hui pour faire apparaître de nouveaux chanteurs, de nouveaux musiciens, l'Académie de l'Opéra est une institution très originale. L'opéra dans les 100 ou 150 salles de cinéma, dans les mêmes conditions qu'à Paris, c'est fantastique. Et puis, je veux rendre hommage à tous les opéras de province, comme on disait naguère, qui aujourd'hui brillent d'un nouvel éclat. Et je crois que l'effet Bastille a là aussi été un effet positif et tonique.
Une toute dernière question, vu que vous parlez de l'Opéra Bastille, de ses grands travaux sous François Mitterrand, vous étiez à la manette vous aussi, avec la très grande bibliothèque, le Louvre. Aujourd'hui, vous avez l'impression que Emmanuel Macron manque d'ambition sur ce plan-là ?
L'ambition n'est pas nécessairement la même sous les divers présidents. Lui-même a pris à bras-le-corps le dossier de Notre-Dame et je m'en réjouis. Il a pris de bonnes décisions, je crois vraiment, à condition qu'on soit capable parallèlement de former les artisans, les restaurateurs dont nous avons besoin, et pour Notre-Dame et pour tous les monuments de France. Et puis, les grands projets, c'est pas nécessairement culturel, ça peut être scientifique, ça peut être aéronautique, comme l'avait fait le général de Gaulle. Donc, accordons du temps au président Macron pour concevoir tel ou tel projet. Je crois qu'il a le projet aussi de transformer le château de Villers-Cotterêts en un haut lieu de la francophonie, l'histoire n'est pas définitivement écrite.
Merci, merci à vous Jack Lang, merci d'avoir été avec nous pour évoquer les 30 ans de l'Opéra Bastille. Notez d'ailleurs que ce soir c'est la dernière de la saison avec le ballet Tree of Codes, reprise le 7 septembre prochain avec un opéra, Les Puritains de Vincenzo Bellini.